Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 15 juillet 2019, vous écoutez le Café de l'e-commerce. Je suis Laetitia et je suis accompagnée de mon acolyte Adrien.
Bonjour à tous, vous êtes nombreuses et nombreux à suivre l'actualité du marketing digital et de l'e-commerce. Le Café de l'e-commerce vous propose de suivre cette actualité différemment dans vos oreilles.
Si vous aimez ce que vous allez écouter, écrivez-nous. Laissez vos commentaires et gratifiez-nous de plein d'étoiles, 5 de préférence sur les plateformes de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter sur www.lecafédecommerce.fr.
Au menu de ce deuxième numéro dans le Café de l'e-commerce, ce sera une formule plat-dessert aujourd'hui. La mise en bouche avec une revue de presse de l'actualité marquante de l'e-commerce en France et à l'étranger. Vous n'avez pas le temps de faire de la veille, on vous condense tout et on vous garde les infos les plus importantes du secteur.
Bon, d'abord une question très importante, comment ça va Adrien depuis la dernière fois ?
Bah écoute, ça va très bien, merci Laetitia. Et toi, comment ça va ?
Ça va.
Super. On est toujours dans nos premiers numéros, donc on est en train de se chercher, de se trouver pour le rythme et les sections, comment on va les faire tourner. Ce qui est amusant, c'est que par rapport au premier numéro qu'on avait publié, on a reçu quelques questions et je voulais revenir sur l'événement Salesforce. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais raconté
oui,
que j'avais assisté
au Salesforce. À la grand-messe de Salesforce.
Voilà, au Salesforce World Tour. Et j'avais évoqué très rapidement que j'avais assisté à la conférence d'Ubisoft. Je voulais juste partager peut-être 2-3 minutes de plus sur ce qui avait été dit. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce qu'en plus, Ubisoft, je ne sais pas pour toi, mais ce n'est pas nécessairement la marque qu'on pense tout de suite quand on parle d'e-commerce.
Mais voire pas du tout. Moi, Ubisoft, je l'associe à des jeux vidéo et c'est tout, en fait.
Eh ben, c'est amusant.
Très bêtement,
parce que,
j'imagine. Mais...
Bah, non, tu as complètement raison. C'est un très gros acteur du jeu vidéo. Et ce qu'expliquait, je crois que c'était Maxime qui présentait ça de chez Ubisoft. Alors, c'est super intéressant parce qu'ils sont en pleine transformation. C'est un marché qui est en ce moment en pleine disruption. Je ne sais pas si on le dit, en tout cas en pleine transformation. Il y a deux ruptures qui sont en train d'arriver. La première, c'est une rupture technologique. Tu as déjà entendu parler du cloud gaming ou pas du tout ? Tu ne joues pas du tout, Laetitia,
non ? Je ne suis pas une gameuse, désolée.
Okay. Bon, le cloud gaming, le concept derrière tout ça, c'est que tu n'as plus besoin d'avoir une console chez toi, mais que tu vas jouer en cloud. Donc, c'est des machines qui vont faire tourner les jeux et tu vas recevoir juste le flux vidéo. Donc, tu as simplement besoin d'une bonne connexion
Internet. Sur n'importe quel device ?
Exactement. Tu peux avoir n'importe quel appareil et tu vas pouvoir déporter la puissance dans le cloud. C'est finalement exactement ce qu'on utilise en cloud pour les sociétés ou pour tout le monde, appliqué aux jeux vidéo. Donc, transformation technologique, parce que ça veut dire qu'il va y avoir des nouveaux acteurs. Il y a Google qui a annoncé qu'il allait se lancer là-dessus. Amazon également qui va se lancer là-dessus. Donc, les Nintendo, Sony, Microsoft qu'on connaissait, on commence à voir de nouveaux acteurs qui arrivent.
Menacé.
Et Ubisoft, ils produisent des jeux. Donc, comment est-ce que donc ils sont partenaires de tous ces acteurs. Comment est-ce qu'ils se transforment? Comment est-ce qu'ils vont s'adapter à toutes ces nouveautés technologiques? C'est intéressant. Et la deuxième rupture, elle est liée. Parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les services justement en cloud et le SaaS, c'est que tu achètes plus quelque chose, mais tu consommes un service. Et c'est la rupture du business model qui est de l'abonnement. On va être de plus en plus, les consommateurs sont de plus en plus amenés à payer chaque mois pour un service plutôt que d'acheter quelque chose tout de suite et d'avoir à le payer dans un premier temps. Donc il y a... c'est vraiment de la... il faut tout repenser, la distribution, la relation, le suivi de la production. Donc, c'est assez intéressant. Ça paraît rien, mais pour eux, c'est un bouleversement
profond. Ouais, c'est une vraie révolution.
C'est une vraie révolution. Et ce qui est incroyable de voir, c'est qu'Ubisoft, ils sont transformés, retransformés, réadaptés. Et c'est vraiment très, très intéressant ce qu'ils racontaient. Donc ça, c'était d'où vient Ubisoft, où ils vont. Ils ont parlé de Salesforce, parce qu'on a un événement Salesforce. Donc, ils ont expliqué les briques technologiques. Ils utilisent notamment la plateforme e-commerce Commerce Cloud. Je suis quasiment certain qu'ils utilisent les autres briques technologiques. Mais bon, voilà, ils en parlent un petit peu. Et j'ai aussi noté le futur. Parce que c'est quelque chose qu'on entend partout, et c'est ça qui m'intéressait, c'est de voir que dans tous les secteurs, on entend toujours la même chose, c'est l'expérience utilisateur. En fait, il avait noté, donc Maxime notait quatre choses dans le futur, qu'est-ce qu'il regardait devant, unifier les expériences, bon, c'est un peu l'aspect multicanal, l'expérience utilisateur, personnalisation de l'expérience, et avoir une homogénéité dans l'expérience. Donc finalement, peu importe le secteur, on les entend tout le temps.
Bah oui, voilà,
rien de nouveau, mais bon, comme quoi, on revient au basique.
Exactement,
et tous les jours, je lis des news, je regarde autour de moi et on revient toujours sur ce concept d'expérience utilisateur. Je sais pas si c'est avec toi que j'en parlais, même Tesla, c'est avec toi, je sais plus, je crois qu'on en discutait.
Non, ça me dit rien.
En fait, c'est un analyste qui expliquait que l'avance que Tesla avait pris dans les voitures, elle était oui dans les batteries et dans les voitures, mais c'est aussi et surtout dans l'expérience utilisateur quand tu arrives, le tableau de bord, les interfaces, tout ce qu'ils ont créé. Donc tu te rends compte que l'expérience utilisateur, c'est vraiment très très important. Donc voilà un petit peu pour ces news, j'ai trouvé ça assez intéressant.
J'espère que tu auras répondu aux nombreuses questions de nos auditeurs.
Ouais, et puis on va pouvoir commencer maintenant alors à lancer les news qu'on a pu collecter.
D'ailleurs, tu rappelles l'adresse pour les auditeurs qui ont des questions.
Il y a l'adresse, c'est info@lecafedelecommerce.fr, et puis on a également nos adresses personnelles, adrien@lecafedelecommerce.fr et laetitia@lecafedelecommerce.fr.
Voilà, vous n'avez plus d'excuses, écrivez-nous. Alors, moi, ce que j'ai retenu dans l'info, ça y est, la taxe GAFA a été définitivement adoptée par le Parlement français. Donc, pour rappel, il y a quand même eu un gros échec sur ce projet-là qui a été mené par Bruno Le Maire, qui, à la base, voulait que ce soit un projet européen et que l'ensemble de l'Union européenne accorde ses violons sur ce projet de loi. Ça s'est pas fait. Toutefois, la France y est allée tout de même. Et le Parlement a voté le 13 juillet dernier la taxe GAFA, qui taxe les géants du numérique. Donc, pour rappel, les GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Parfois, on parle de GAFA, mais en y ajoutant Microsoft. Les GAFA, en chiffres, ça représente, en tout cas en France, 10 800 emplois, donc répartis sur des centres de logistique, des boutiques, des centres de R&D. Et ce que prévoit la loi, c'est de taxer à hauteur de 3% le chiffre d'affaires de ces sociétés qui réalisent au moins 750 millions d'euros de chiffre d'affaires dans le monde et au moins 25 millions en France. Immédiatement, réaction de Donald Trump qui a dit moi, si c'est comme ça, je vais taxer les entreprises françaises présentes sur le sol américain. Il a même été plus loin. J'ai lu dans un article du New York Times que j'ai partagé d'ailleurs avec Carla tout à l'heure, en disant qu'il taxerait même les salariés français présents sur le sol américain. Rien de confirmé. Moi, je trouve que c'est plutôt... Alors, j'ai pas d'avis sur la taxe GAFA. En tout cas, ça n'a pas marché à un niveau européen. La France y est allée, elle a réussi. Je sais pas si ça va vraiment porter ses fruits et si on va réussir à récolter la taxe, parce que c'est peut-être ça le véritable enjeu. Et j'ai noté une autre news sur les assistants vocaux. Donc, on en parle très souvent ici avec Adrien. Le futur, c'est la voix. Et d'après une récente étude du cabinet Roland Berger associé à Viséo, il y aurait plus de 20 millions de Français qui utilisent un assistant vocal. Pour rappel, l'assistance vocale est arrivée chez nous en 2012 avec tout simplement Siri. Donc c'est Apple qui nous a, qui a apporté à nous la voix. Aux États-Unis, c'est plus d'un foyer sur quatre qui est équipé. Et le premier marché, ça reste l'Asie, avec la Chine et l'Inde, où plus de 80% de la population a adopté cette technologie-là. Il y a le Japon, qui est un petit peu loin derrière, avec 40%, qui est encore un early adopter. Le marché de la voice a de beaux jours dans l'Hexagone.
Toi, tu as ce genre d'appareil chez toi?
Ouais, moi j'ai. Ouais. Ma Amazon, Alexa, c'est ma meilleure amie.
T'en as un, t'en as deux?
J'en ai deux. Ouais, chez une amie, parce qu'en plus, c'est assez controversé comme objet, mais moi je suis méga fan, quoi.
Et en dehors d'écouter de la musique, est-ce que tu t'en sers pour soit acheter, soit poser des questions?
Je pose des questions. Ah, okay. Ma fille pose des questions. C'est dramatique. Je suis asservie à ce genre d'objet.
Donc voilà. Moi, j'avais acheté il y a 2 ans l'Amazon, l'Echo, ouais. Dot. J'ai commencé un peu à jouer avec et très vite, ça a fini au fond du tiroir. Parce qu'en dehors d'écouter de la musique et de poser quelques questions basiques, je ne voyais pas trop d'utilité. Il y a un an, il y a moins d'un an, j'ai assisté à une conférence où il y avait une démo où le use case c'était d'acheter par la voix. Pour moi, ça reste encore très 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 marginal. Il y a même des chiffres en interne, j'ai vu qui montrent que c'est peut-être 0,01% du commerce aujourd'hui qui transite par ça. Donc c'est sexy, mais le use case de poser la question, ajouter au panier,
c'est une vraie démarche intellectuelle.
Ensuite, ensuite aller sur son téléphone pour finaliser la commande. Je sais pas, dans le cas d'Amazon, pourquoi pas, mais pour un retailer, je suis
moins convaincu. Je suis sceptique comme toi pour les retailers.
Faut voir les usages. En tout cas, ça faisait pas très smooth, c'était pas très fluide la démo et le use case. Donc j'attends de voir que les usages se développent. La technologie est peut-être là, mais je suis pas convaincu. Et hier, j'ai acheté le Google. Parce que je viens d'emménager, j'ai envie de tester les deux.
Nous feras ton feedback.
On m'a dit que c'était mieux, mais je suis vraiment intéressé de voir comment les marques vont se positionner dessus et comment est-ce que ça va se démocratiser, parce que je vois que ça prend, mais on parle aussi de volumes qui sont assez bas. Enfin, ça me paraît étonnant, les 20 millions d'utilisateurs.
Ouais, alors en fait, le calcul, c'est le taux d'équipement.
Voilà.
C'est pas du tout, il n'y a pas 20 sur et puis, si 66 prends, millions de Français que nous sommes. Non, en fait,
et à mon avis, ils ont inclus tous ceux qui ont un Apple, par exemple.
Exactement, et donc Siri, ton téléphone, exactement. Donc... Non, moi j'utilise Siri, je suis désolée de le
D'accord,
dire.
Okay. Mais ce serait intéressant de voir ceux qui ont des appareils dédiés.
Exactement, dédiés et l'usage, s'il est quotidien, fréquent, régulier. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi, ce chiffre est un peu gonflé.
Alors, j'avais une autre news que je voulais te partager. Content Square a acheté deux sociétés et je voulais te partager avec toi ce qui s'était passé. La première, c'est une société qui s'appelle Pricing Assistant. Ça te dit quelque chose ?
Non.
Alors, je ne connaissais pas non plus. Pourtant, le nom de lui-même, je pense qu'on comprend assez de quoi il s'agit. C'est une plateforme qui te permet d'optimiser les prix. En fait, tu te rends compte sur Amazon, par exemple, c'est monstrueux. Le prix par jour est modifié. Enfin, il y a 2,5 millions de modifications de prix sur les produits par jour.
C'est énorme.
Tu te rends compte que
c'est pas
fait.
Donc,
ils sont. C'est surtout que c'est de l'algorithmie derrière.
Ouais.
Tu peux pas modifier ça manuellement. Mm-hmm. Là où les retailers, ils vont charger des fichiers de prix ou ils vont le faire manuellement. Là, non seulement c'est dynamique, mais il y a en plus une certaine intelligence. Bon, on va mettre de l'intelligence artificielle un peu partout, mais ce qui est certain, c'est que cet outil-là, Pricing Assistant, te permettait d'aller regarder sur toutes les marketplaces quels étaient les prix de tes concurrents et comment est-ce que ça pourrait impacter le prix que tu avais.
Et quelle est la stratégie de Content Square avec ce rachat ?
C'est
diversification.
Diversification et puis mettre un pied aussi un peu plus profond dans l'e-commerce avec les retailers. Ils étaient surtout sur le contenu. Il y avait aussi du push produit, mais je pense qu'ils sont en train de se diversifier en profondeur également pour apporter plus de valeur. Ça me paraît quelque chose d'assez intéressant. Je lisais une étude sur l'intelligence artificielle justement autour de du calcul des prix. Et il y avait trois choses qui en ressortaient. Pourquoi on a besoin d'intelligence artificielle autour de ça ? Le premier, c'est pour faire de la segmentation. Imagine que tu puisses détecter quelles sont les typologies de clients qui viennent sur ta page et tu peux ensuite comprendre ce qu'ils font. La deuxième, c'est modéliser les comportements d'achat. Et tu peux te dire, déjà, tu as segmenté. Et ensuite, la segmentation, tu comprends ce qu'il veut faire. Et le troisième, c'est prévoir quel est le meilleur prix. Et tu peux adapter ton prix. Alors, certains diront, c'est pas du tout éthique parce que tu vas changer le prix, mais on l'a déjà aujourd'hui
tous les jours.
Avec les campagnes, etc. Tu fais un clic, en fonction d'où tu cliques, tu auras un prix qui sera différent. Et je pense que c'est intéressant. Et ça se couple avec la deuxième acquisition que Content Square a fait, celle de Clicktel. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans une autre vie, je travaillais dans l'analytics. Et Clicktel, c'était un tout petit acteur israélien qui avait fait quelque chose qui était très sexy, ils avaient tout compris, c'était des heat maps, des zones de chaleur. Et donc tu voyais sur ton site, il y avait deux choses qui permettaient. Le premier, c'est que tu voyais la souris qui se déplaçait et tu voyais où les gens cliquaient, combien de temps ils s'arrêtaient.
C'est un concurrent de Jar un peu.
Ouais, je connais pas cet outil-là, mais
ouais,
c'est ça.
C'est la même chose.
Donc là, un, tu vois en temps réel, tu peux faire
tu vois les zones
vidéos,
chaudes,
etc.
Et
deux, voilà, t'as un truc super visuel. Et à l'époque, il y a quelques années, c'était vraiment la tendance de regarder le
design. C'est très pratique en cas d'AB testing, surtout.
Où est-ce que les gens cliquent, etc. Ouais. Donc c'est assez amusant. Donc bravo à Content Square.
Bravo Content Square.
À se déplacer,
développer. Bien. Alors pour ma part, j'ai noté en levée de fonds Plaisy, Cocorico, Plaisy, c'est une solution de marketing automation française qui a été fondée en 2015, par Charles Dolizy et Renaud Delacote. Moi, en tant que marketeuse, j'utilise pas Plaisy, mais je suis une fan de leur contenu parce que en termes de marketing automation, et ils sont très calés. Aujourd'hui, ils ont plus de 200 clients, essentiellement français. La levée de fonds de 3 millions, elle va servir à se développer à l'international, notamment en Angleterre, qui est la première target de Plaisy pour l'année à venir. Pour rappel, la promesse de Plaisy, c'est de permettre aux utilisateurs de la plateforme de multiplier par 3 le nombre de leads générés et d'augmenter le trafic de plus de 40%. Donc, ça reste une promesse. Néanmoins, je vous assure que ça donne plein de tips et plein de cas d'usage très faciles à implémenter sur votre marketing. Donc, si vous n'êtes pas encore doté d'une plateforme, je vous invite à regarder pas uniquement Plaisy, mais ce que d'autres font. Parce que c'est un réel investissement à faire sur un département content marketing.
Avant qu'ils lèvent de l'argent, tu les connaissais ?
Ouais, je les connaissais. Je connaissais surtout Adeline de Plaisy qui nous envoie plein de newsletters très sympathiques. Mmh. Je crois que j'ai dû les rencontrer sur un salon et c'est vrai qu'ils ont commencé hyper petits. C'est compliqué le marketing automation, il y a de très gros acteurs qui sont là, avec de très grosses bécanes.
C'est pas un marché qui est déjà saturé ? Est-ce qu'il y a de la place pour...
Je pense qu'il y a de la place pour des TPE, des plus petites, parce que ça coûte cher de s'équiper en marketing automation aujourd'hui.
Leur segment, leur cible, c'est les
mid-market. C'est plus du mid-market. Et moi, j'y crois. Je pense qu'il faut rendre accessible ce genre de plateforme et ne pas se cantonner qu'aux grosses boîtes qui ont besoin de grosses machines.
Et comment t'expliques qu'ils ont une telle croissance ? Il y a quelque chose qu'ils font que les concurrents ne font pas ? Ils communiquent bien.
Ouais, je pense qu'ils communiquent vraiment bien. Ils sont très présents.
Il y a le Made in French.
Exactement. Et puis ils sont vraiment présents. Et ils ont capté un truc que les autres n'ont pas capté. Et puis ils sont très accessibles aussi. Et je poursuis ma petite revue avec Emma. Qui débarque en Amérique du Nord. Bon, Emma, on connaît tous un peu ces petites boutiques un peu bazar où on trouve de tout, aussi bien de l'alimentaire que... Enfin oui, vraiment de tout. C'est une ancienne néerlandaise qui a été créée en 1926, donc on est quand même sur un truc bien, bien fat, historiquement parlant. Et l'expansion hors des Pays-Bas, elle a eu lieu uniquement après les années 2000. Donc ça a commencé par des boutiques, un city commerce, des city commerce. Et aujourd'hui, Emma débarque sur le sol américain, au Canada et aux US, en propre, donc avec des boutiques, mais aussi sur Walmart. Donc un partenariat avec Walmart. Alors je précise sur walmart.com, pas en physique. Et quelques chiffres, Emma, c'est 11 000 salariés, 720 magasins en Europe, dont 75 en France. J'avais pas idée qu'il y avait autant de magasins Emma en France. Pour un chiffre d'affaires d'1,3 milliard en 2017. Alors Emma a connu quelques péripéties l'année dernière, je crois qu'ils avaient des histoires de dettes, des choses comme ça. Je sais pas si ce pari américain est judicieux, mais on leur souhaite bonne chance.
Tu t'achètes dans leur magasin, tu vas des fois par là-bas.
Ouais,
ils communiquent beaucoup sur leur site internet.
Voilà, alors moi,
Sephora,
je
où tu vois souvent de,
bah non,
le site,
enfin, peut-être Carla nous en dira un petit peu plus parce que j'ai souvenir qu'elle a peut-être travaillé sur quelque chose avec Emma. En tout cas, moi, dans une de mes expériences professionnelles, j'avais Emma pour client. Ils communiquent pas beaucoup sur le digital. En revanche, j'ai beaucoup de catalogues, de papier, de print, et c'est beaucoup de références en fait. Ouais. Parce qu'ils sont très diversifiés.
Et dernière news, je voulais parler d'un sujet qui me paraissait assez intéressant. C'est un sujet un peu techno-geek. C'est ce concept d'headless commerce. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce concept, Laetitia ?
Non.
En fait, la news, elle vient de Magento, d'Adobe, qui annonce que la nouvelle... solution, la nouvelle mise à jour de Magento qu'ils appellent Adobe Commerce Cloud va intégrer ces fonctionnalités. Je voulais juste prendre 30 petites secondes pour expliquer ce concept et je pense que ça serait aussi intéressant qu'on invite quelqu'un avec lequel on pourra aller plus en profondeur. Et pourquoi je voulais en parler ? Parce qu'en fait, c'est l'évolution de l'e-commerce. Et ça fait des années qu'on est qu'on évolue dans l'e-commerce. Faut sortir de loin pour nous amener des choses, des révolutions. Bon, quand tu parles avec les personnes, il n'y a pas vraiment de révolution, mais je pense quand même que c'est assez intéressant. Alors, petit rappel des faits, il y a une dizaine d'années, il y avait des solutions qui existaient, des solutions qui étaient lourdes d'e-commerce, mais la règle, on va dire il y a 10-15 ans, c'était plutôt de développer en interne sa propre plateforme e-commerce. Il y a ensuite des solutions e-commerce, les Intershop et compagnie qui sont arrivées, des solutions de nouvelle génération qui sont arrivées, les Hybris, Salesforce, enfin Demandware, etc.
Magento,
qui sont ensuite arrivées, et cette nouvelle génération, elle a porté une capacité à être déployée beaucoup plus rapide, avec du cloud dans certains cas. Mais le concept était le même, qui était tu dois intégrer. C'est un projet d'intégration qui peut être lourd. Alors on passait de un an et demi à quelques mois en fonction de la complexité, mais il y avait toujours cette complexité qui résidait dans le fait qu'il fallait que toutes les équipes s'assoient ensemble et il fallait bien définir le besoin métier avec les contraintes techniques. Juste pour simplifier le concept de headless, c'est sans la tête, c'est l'idée de décorréler le back-office avec le front. Ce que tu vois sur ton site internet, donc le design en front et décorrélé du back, qu'est-ce que ça signifie ? Bah, tu n'as plus ce concept de template que tu vas installer. Tu peux l'avoir, mais il n'est pas aussi lié que ce qu'on pouvait faire à l'époque. Là, tout va être fait par API et tu décorrèles vraiment le back avec le front. Je vais te donner un exemple très très simple. Demain, tu veux développer quelque chose dans ton magasin ou tu veux développer ton site internet ou une application, tu vas utiliser un set d'API, un jeu d'API que tu vas pouvoir utiliser pour aller récupérer les informations qui sont dans ton back-office. Et du coup, tu fais évoluer ton back-office, ça n'a pas d'impact sur le front. Tu fais évoluer ton front, ça n'a pas d'impact sur le back. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et on reprendra un peu de temps pour développer un peu plus parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans cette approche. Mais je trouvais ça assez amusant, enfin amusant non, mais intéressant de voir dans quelle direction va le marché.
Merci à tous d'avoir partagé avec nous ce moment.
Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous sur le site lecafédelecommerce.fr et profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter.
Enfin, si vous souhaitez participer à nos interviews, nous vous invitons à nous contacter info@lecafédelecommerce.fr ou à remplir notre formulaire disponible sur notre site www.lecafédelecommerce.com.
.fr, Laetitia, et on est en train de faire évoluer le site internet, donc il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, on est en train de construire tout ça, n'hésitez pas à nous donner votre feedback. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. À très vite, Laetitia.
À très bientôt.